Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Merci de nous accorder votre attention.
Commence chaque journée comme si elle avait été écrite pour toi.
Tout ce que tu fais dans la vie, tout choix que tu fais a des conséquences. On t'agit sans réfléchir, c'est comme si tu laissais la vie faire des choix pour toi.
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
Rien n'est impossible.
Bien sur RDC, il est 14h passées et votre émission À vos oreilles avec Alizé va pouvoir commencer. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h15 et je vous laisse encore en compagnie du générique de Serge Gainsbourg. J'espère que vous allez bien, que ce week-end commence bien. Et puis moi, je vais revenir vers vous, bien sûr, pour terminer le livre que j'avais commencé le mois dernier, Un été indien de Truman Capote. Donc pour aujourd'hui, je vous propose de terminer cette histoire, de faire quand même un léger résumé pour se remettre et se replonger dans l'histoire. Et puis, j'enchaînerai avec une autre nouvelle. Après, bien sûr, la pause musicale et après la fin de Un été indien. Alors, justement, reprenons l'histoire d'un été indien que je vous avais conté, un livre de Truman Capote. Il reste encore quelques pages à terminer, bien sûr, et ce que je vous propose, c'est de se replonger dans l'histoire de cette petite nouvelle. Alors, si vous vous souvenez, je vous contais l'histoire de Bobby. Bobby, un jeune garçon qui habite à la campagne avec ses grands-parents et ses parents. Et il doit partir de la maison familiale avec ses parents pour rentrer à l'école. Une école qui se trouve en ville, bien plus loin que là où il a habité toute sa vie. Cette maison, elle est située dans la campagne américaine. On est au XXe siècle. Et pour Bobby, c'est un vrai déchirement de quitter ses grands-parents, surtout son grand-père, ému, et qui souhaite lui délivrer un secret avant son départ. Bobby donc prépare ses affaires, ses parents aussi. Ils doivent s'installer chez un nouveau patron dont ils travailleront la terre. Et les grands-parents auront quant à eux un nouveau fermier chez eux, qui doit arriver et prendre soin de la maison et des terres des grands-parents. Le jour du départ de Bobby et de ses grands et de ses parents, un dimanche, la grand-mère de Bobby tombe malade. Les affaires sont prêtes dans la voiture et Bobby et ses parents doivent partir. Le trajet est une vraie découverte pour Bobby, qui n'est jamais sorti de sa maison et de ses terres. Donc c'est une vraie découverte, il est surexcité et puis triste à la fois d'avoir quitté ses grands-parents, ne sachant pas quand est-ce qu'il les reverrait. Ce que je vous propose, c'est de reprendre la lecture au moment où Bobby arrive dans cette nouvelle maison, où il va rencontrer les nouvelles personnes avec qui il va habiter. Et là, on est à un moment de l'histoire où Bobby et ses parents sont encore en voiture. Et donc, ils ne devraient pas tarder à arriver. Papa ouvrit la portière et me demanda si j'avais besoin d'aller au cabinet. Il me montra une porte sur le côté du bâtiment et me conseilla de ne pas traîner et de revenir directement à la voiture. Il regarda le ciel et se contenta de secouer la tête. Quand je rejoignis mes parents, ils étaient prêts à partir. La terre était d'une blancheur parfaite et l'air glacial semblait tout neuf. Je voulus m'amuser un peu, mais il n'en était pas question. Je retrouvai mon nid entre les cartons et une fois bien installé, j'eus droit à un bout de gâteau que papa avait gardé pour moi. La ville défilait sous mes yeux et j'aperçus de rares passants que je n'avais jamais rencontrés. Mais revint bientôt le même paysage monotone et je m'assoupis à nouveau. Maman me secoua au moment où on s'engageait dans l'allée d'une des plus belles demeures que j'avais jamais vues. La neige avait cessé, mais mon Dieu, quelle couche impressionnante elle avait formée. Papa essaya bien de continuer sur sa lancée, mais la voiture s'emballa d'un coup, avant de caler net. Quand maman demanda à papa s'il ne s'était pas trompé de maison, il lui répondit que nous étions bien arrivés à destination. Un homme apparut sous la véranda qui nous considéra d'un air étonné. Deux petits garçons le rejoignirent et puis un troisième enfant, une fille cette fois, et ils étaient tous là à nous regarder comme une curiosité. Papa fit quelques pas dans l'allée pour s'approcher de l'homme et entendre ce qu'il disait. Je le vis plusieurs fois hocher la tête avant de tourner sur lui-même et refaire le chemin qui le séparait de la voiture. Il avait de la neige jusqu'aux genoux, et maman et moi, nous aurions à traverser toute cette neige. Papa se chargea de deux gros cartons et maman en prit un. Ils ne m'en donnèrent pas à porter, probablement parce que c'était beaucoup trop lourd pour moi. On entra dans la grande maison et une femme sortit de la cuisine. Papa donna une poignée de main au propriétaire avant de serrer celle de la femme. Et puis maman fit de même. Nous, les enfants, on se regardait sans bouger. J'étais tout près de papa car je me trouvais seule, contre trois, et il n'avait pas l'air commode. L'homme annonça à papa que le premier étage nous était réservé. Il y avait une cuisine, deux chambres, une salle de séjour et une salle de bain. Papa nous dit de monter, nous installer et il suivit l'homme dans une grande pièce pour parler. Les garçons nous regardaient. Maman et moi grimpaient l'escalier. Il fallait que je monte un des deux cartons que papa avait transporté jusque-là. Je laissai l'autre en bas, sachant bien qu'il faudrait revenir le chercher. Quand je descendis, les deux garçons étaient toujours là, mais la fille avait disparu. Je leur demandai s'ils allaient à l'école. « Bien sûr, on vient de commencer, » répondit l'un d'eux. « C'est à 700-800 mètres à pied, » précisa l'autre. On aurait presque dit des jumeaux. Vous êtes tous les deux dans la même classe ? Oui, au cours préparatoire. Notre sœur ira que l'année prochaine, m'apprit l'autre. Comme maman criait qu'elle attendait le dernier carton, je dus les quitter. Ils me regardèrent une nouvelle fois grimper l'escalier. Maman m'apprit que l'homme s'appelait Monsieur Spade Anderson et que papa allait travailler pour lui. Elle avait déjà sorti de la nourriture et préparé le dîner. Je pensais à voix haute. Aujourd'hui, c'est dimanche. Le courrier part demain. Je vais écrire à grand-père. En filant vers ma chambre, je passais devant un bureau magnifique, avec des encres, des stylos et des affaires de toutes sortes. Il y avait aussi une lampe. Je me dis que c'était pour écrire la nuit. Quelque chose attira mon regard, un abat-jour terne en papier jaune, décoré de drôles de boucles. C'était glissant et doux sous la main. Je me demandais l'effet que ça ferait d'écrire dessus. Et peut-être bien aussi que grand-père n'avait jamais rien vu de pareil. J'envolais un bout et fonçais dans ma chambre. Je fouillais dans le carton pour trouver un crayon et commençais ma lettre. Cher grand-père, on a bien trouvé la maison. C'est une grande maison à deux niveaux. On a le niveau du haut. Ils ont trois enfants, deux garçons et une fille. Papa a été coincé dans la neige en bas du chemin. J'écrivais trop gros et je m'aperçus alors qu'il ne me restait plus beaucoup de place pour terminer. Les petites boucles étaient vraiment envahissantes. Je réussis quand même à placer. Écris vite, tu me manques, je voudrais que tu sois ici. Et je signais simplement Bobby. À présent, il me fallait une enveloppe. Je retournai à la table et en trouvai une, mais il y avait quelque chose d'écrit en haut à gauche. Maman arriva et me surprit. Je lui expliquai que j'avais écrit à grand-père et que j'avais besoin d'une enveloppe. Elle regarda l'enveloppe en question et me dit que ça ferait parfaitement l'affaire. C'était l'adresse personnelle de M. Anderson qui figurait dans le coin du haut. « Dis bien à ton grand-père que c'est là qu'il doit écrire et ajoute que papa et moi, on lui dit bonjour. » Une fois dans ma chambre, je considérais l'enveloppe, puis la lettre. Je ne voyais pas comment j'allais pouvoir faire tenir tout ce qu'elle avait dit. Alors il me vint une idée toute bête. Je retournai la feuille et me trouvai face à une page neuve, sur laquelle je m'empressai d'écrire. P.S. Maman et papa te disent bonjour. Écris à l'adresse qui se trouve dans le coin. C'est le propriétaire. Peut-être que tu vas pouvoir passer nous voir un de ces jours. Je recommençai à écrire gros et me trouvai à court d'espace. Je retournai la lettre et relus la première page. En bas, j'ajoutai la mention « Tournée SVP ». Je la cachetai et restai un moment à étudier notre nouvelle adresse. Maman revint dans ma chambre et me dit d'écrire l'adresse. Elle avait trouvé un timbre et enverrait la lettre le lendemain. Je demandai à maman où il fallait que j'écrive et elle me dit de mettre le nom de grand-père, d'ajouter « distribution rurale » et qu'elle allait compléter. Le jour tombait et je regardais par la fenêtre une nouvelle fois saisie par le désir de revoir les montagnes. Poussée par des rafales, la neige qui venait des collines s'amoncelait en cercle autour des pieux de clôture. Je distinguais encore la voiture de papa, bloquée en bas du chemin. Et soudain je les vis, les montagnes, si lointaines, si sombres et si distinctes. Le vent cinglait les arêtes des murs, et je me demandais si grand-père et grand-mère étaient bien au chaud. Comment le fermier les traitait-il, et le docteur, avait-il réussi à venir voir grand-mère? Je me demandais aussi ce qu'il faisait en ce moment, s'il était tombé beaucoup de neige par chez eux, et si le nouveau fermier avait la flemme de dégager le chemin à la pelle pour leur permettre de se rendre en ville, à l'église, ou même d'aller chercher le courrier. Maman m'appela pour dîner. Papa était monté et il expliquait qu'on lui proposait une situation en or. Monsieur Henderson proposait et possédait entre 300 et 400 acres de terre et papa allait être responsable de l'exploitation et gagnerait $400 par mois s'il arrivait à en tirer le meilleur rendement. Il serrait maman contre lui et tous les deux riaient et faisaient les fous lorsque papa sortit la plus grosse liasse d'argent que j'avais jamais vue. « Il m'a avancé mon premier mois de salaire !» s'écria papa, et il embrassa à nouveau maman. J'étais sidérée. Je ne pouvais pas croire que tout cela nous arrivait. Papa avec un aussi bon travail, maman qui avait retrouvé le sourire et moi qui allais à l'école. Alors, pour fêter ça, je me mis à faire des bons et à embrasser maman moi aussi. Tous les trois, nous étions si bien ensemble. Une fois le dîner terminé, nous restâmes dans la salle de séjour, sans rien faire de particulier. Il y avait un grand poste de radio formidable et papa l'alluma et tomba sur de la musique. Papa et maman étaient assis côte à côte et se tenaient la main. Je me sentais toujours tellement heureux quand je les voyais tous les deux réunis comme ça. Il lui apprit que l'école était à 500 mètres et que le lendemain, neige ou pas neige, j'irais avec les garçons. Il annonça qu'il allait envoyer de l'argent à grand-père et grand-mère et qu'on allait peut-être pouvoir aller les voir bientôt, peut-être même au printemps. Cette nouvelle me transporta de joie. On allait retourner pour de bon dans notre vieille maison, chez grand-père et grand-mère, et peut-être même dans pas longtemps. Une semaine passa, puis deux semaines, et tous les soirs après l'école, je rentrais en courant, me précipitais dans la maison, pour chercher une lettre de grand-père. Enfin, elle arriva. Elle m'était adressée à Maître Bobby. Grand-père avait tracé ce nom en majuscule. Au-dessous, on pouvait lire « Aux bons soins de Monsieur Spade Anderson, distribution rurale », suivi du nom de la ville, que je n'avais pas encore appris à prononcer correctement, et puis Virginie. « Ça y est, grand-père m'a écrit !» m'écriai-je, en montant l'escalier 4 à 4. Tous ces efforts de 2 semaines, l'école, les devoirs difficiles, l'office du dimanche, sans compter les fois où j'avais aidé papa le samedi, n'avaient pas été inutiles, grand-père avait écrit. J'examinai l'écriture un moment avant de déchirer l'enveloppe. J'aimais toujours retarder des choses comme ça, les faire durer un peu plus longtemps que nécessaire. La lettre commençait ainsi. « Cher Bobby, je suis si content et si heureux pour toi. Ton papier à lettres est magnifique. Les gens chez qui tu habites doivent être vraiment très riches et très gentils. J'ai tellement peur que tu m'oublies. Grand-mère est décédée. Elle est morte le lendemain de votre départ. Elle ne voulait plus manger et n'avait plus goût à rien. J'étais désespérée. Le docteur a dit qu'elle en avait assez de vivre. Je n'en croyais pas mes yeux. J'avais l'impression de lire la lettre de quelqu'un d'autre. Cette lettre ne m'était pas destinée. Grand-mère ne pouvait pas mourir et abandonner grand-père. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Quand deux personnes vont si bien ensemble, Il ne faut pas que l'une d'elles quitte l'autre comme ça, sans prévenir. Et alors je pensais à maman et à papa. Me voilà bien en peine, poursuivait-il. Les gens qui vivent ici sont comme des étrangers pour moi. Le docteur s'est occupé de l'enterrement et je me retrouve tout seul. Il y a des fois où je regrette de ne pas être partie avec elle. La lettre n'était même pas signée, mais il avait tenu sa promesse. Ça avait dû être terrible pour lui d'écrire ces lignes. Il lui en avait fallu du courage. Il avait sûrement souffert dans ses entrailles de me raconter tout ça. Les années passèrent et j'entrai au collège. Monsieur Anderson vendit à papa une parcelle de terrain et nous fîmes construire une maison à nous. Papa disait que je n'allais pas tarder à me marier et qu'il nous faudrait davantage d'espace et un endroit pour se sentir bien chez soi. Je ne pensais plus à grand-père, jusqu'au jour où je reçus une lettre, envoyée par un certain monsieur Joseph Ridley. Il m'apprenait que le vieil homme chez qui il vivait venait de mourir, et qu'on avait trouvé une lettre avec mon nom et l'adresse de monsieur Spade Anderson dans ses affaires. Il expliquait qu'il travaillait comme journaliste et que cela faisait 8 ans qu'il s'occupait un peu du vieil homme depuis qu'il avait emménagé dans la maison. Je vous envoie la seule chose qu'il possédait dans une boîte que je posterai demain parce qu'il faut que j'aille la faire peser en ville pour les timbres. Sa lettre s'arrêtait là. Grand-père était mort. Il ne pouvait pas s'agir d'un autre homme. Je pensais à son secret, ce qu'il m'avait appris et répété si souvent. Aime ton père et ta mère. Accompagne-les à l'office tous les dimanches et conduis-les à l'église quand tu seras en âge de le faire. À présent, ces paroles résonnaient en moi avec une grande clarté. J'avais suivi ses conseils. Vivre, laisser vivre et prendre plaisir à la vie. Tout cela faisait partie du secret de grand-père. Recevoir l'amour et le partager. Le colis arriva le lendemain. Je l'ouvris avec le plus grand soin car je sentais qu'il contenait quelque chose de délicat et de très fragile. Et je l'avais là, sous mes yeux, le grand cadre qui avait trôné toutes ces années sur la commode de la chambre de grand-père. J'examinais les photos une à une, grand-mère d'abord, ensuite grand-père, et puis papa, et enfin maman. Il avait mis ma photo ailleurs. Je me demandais ce qu'il en avait fait, où elle pouvait bien être. Je regardais à nouveau ces photos, mais différemment cette fois, comme un tout, comme une vraie famille. Maman et papa me tournèrent le dos et s'éloignèrent, me laissant seule avec ce cadre que je tenais entre mes mains avec le plus profond respect. Je fondis en larmes et alors me vinrent ces paroles. Ceci est mon héritage, mon passé qui ne me quittera plus jamais. Grand-père l'a gardé sur sa commode toutes ces années. Il devait être au supplice quand il se surprenait à les regarder au plus profond de la détresse. Mais peut-être que cela ne le tourmentait pas du tout. Je crois que grand-père possédait un savoir et un pouvoir qui l'avait conduit bien au-delà de mon petit monde et de ce que j'étais capable de percevoir. On ne se donna jamais la peine de retourner là-bas, du vivant de grand-père, même si papa n'arrêtait pas d'en parler. Et à présent, il n'y avait plus rien là-bas, sinon des souvenirs. Mais peut-être qu'un jour, avant de mourir, je retournerai y vivre. Et voilà, pour la fin de cette histoire, Un été indien de Truman Capote, une petite nouvelle très simple, très profonde aussi, avec des mots très simples et très forts. Et cette petite histoire, qui j'espère vous a plu, est terminée. Et puis je vais vous proposer une pause musicale, une petite chanson, pour se changer aussi un peu les esprits. Et puis je reviendrai vers vous pour une autre histoire, une autre nouvelle que je vais vous présenter après la pause musicale. À de suite.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, ses flux. Tu as nec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après, coquin de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Et vous êtes bien sur RDC 93.4 à Angoulême, 92.5 sur la région de Saintes. Il est 14h30. J'ai terminé cette première lecture, donc d'un été indien de Truman Capote, et maintenant je vous propose une autre histoire. Cette fois, j'ai choisi un écrivain français qui est très connu pour ses très belles descriptions des paysages normands, notamment. Et donc, ce sera Guy de Maupassant que j'ai choisi. J'ai choisi Guy de Maupassant, un recueil de 3 nouvelles. Et cet après-midi, je pense largement que je pourrais vous en lire une entière. Je l'ai choisi pour son humour, pour aussi la description de ses personnages. On a vraiment cette sensation d'être dans la scène. Et donc, comme ce sont des petites nouvelles qui se lisent assez facilement, je vous propose de vous les faire partager. Dans un premier temps, je vais vous proposer de lire l'introduction. Comme ça, ça nous mettra tous dans l'ambiance de cette prochaine nouvelle. La première nouvelle, c'est La Parure, que je donc vais vous lire cet après-midi. Et je pense que les deux autres nouvelles, je les garderai pour notre prochain rendez-vous le mois prochain, le samedi 18 novembre, exactement. Donc je vous propose d'abord l'introduction. Voici 3 nouvelles qui sont parmi les plus originales de Maupassant. Avec La Parure pour emblème, elle témoigne à elle seule de la richesse de son œuvre. Richesse qui est d'abord celle du conteur, puisque publiée entre 1876 et 1884, dans des années où l'écrivain, malgré la terrible maladie qu'il atteint en 1877 à l'âge de 27 ans, affirme toujours davantage son talent. Elle frappe par leur souci du détail parlant, par leur construction élaborée et par une identique maîtrise dans l'art du dénouement. Elle révèle ensuite à la fois la diversité et l'unité du monde peint par Maupassant. La Parure et Sur l'eau nous découvrent Paris et ses environs, univers pittoresque où le milieu des petits fonctionnaires, que l'auteur a bien connu dans sa brève carrière administrative, côtoie celui des pêcheurs, qu'il a fréquenté davantage, notamment lors de ses parties de canotage sur la Seine. La légende du Mont-Saint-Michel nous transporte en revanche en Normandie. Et c'est alors une autre région qui apparaît, pas moins typée, avec ses paysans croqués sur le vif et ses légendes pleines de drôleries. Au-delà de leur variété, ces 3 textes se ressemblent pourtant par l'ironie qui les sous-tend, ironie du sort dans La Parure et Sur l'eau, où le destin prend la forme du rêve ou de la fantasmagorie. Ironie d'un comportement dans la légende du Mont-Saint-Michel où un ange se joue du diable. En somme, dans l'ordre où elles sont présentées ici, et qui conduit le lecteur d'une rivière de diamants aux côtes de Normandie, puis au bord de la Seine, ces 3 nouvelles montrent que l'eau, celle des pierres précieuses, ou celle réelle de la Manche ou de la Seine, n'est au fond jamais limpide et légère. Au contraire, elle est aussi lourde et troublante qu'une parure. Il suffit, pour le comprendre, de s'embarquer, comme Maupassant l'a fait, puis d'écouter et surtout de regarder. Je commencerai donc par La Parure, première nouvelle de ce recueil de 3 petites nouvelles. C'était une de ces jolies et charmantes filles, née, comme par une erreur du destin, dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérance, aucun moyen d'être connue, comprise, aimée, épousée par un homme riche et distingué. Et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'Instruction publique. Elle fut simple, ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée. Car les femmes n'ont point de caste, ni de race. Leur beauté, leur grâce et leur charme leur servant de naissance et de famille. Leur finesse native, leur instinct d'élégance, leur souplesse d'esprit sont leur seule hiérarchie et font des filles du peuple les égales des plus grandes dames. Elle souffrait sans cesse, se sentant née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Elle souffrait de la pauvreté de son logement, de la misère des murs, de l'usure des sièges, de la laideur des étoffes. Toutes ces choses dont une autre femme de sa caste ne se serait même pas aperçue, la torturaient et l'indignaient. La vue de la petite Bretonne, qui faisait son humble ménage, éveillait en elle des regrets désolés et des rêves éperdus. Elle songeait aux antichambres muettes, capitonnées, avec des tentures orientales, éclairées par de hautes torchères de bronze, et aux deux grands valets, en culottes courtes, qui dorment dans les larges fauteuils, assoupis par la chaleur lourde du calorifère. Elle songeait au grand salon, vêtu de soie ancienne, aux meubles fins portant des bibelots inestimables et au petit salon coquet, parfumé, fait pour la causerie de 5 heures avec les amis les plus intimes, les hommes connus et recherchés, dont toutes les femmes envient et désirent l'attention. Quand elle s'asseyait, pour dîner, devant la table ronde couverte d'une nappe de 3 jours, en face de son mari, qui découvrait la soupière, en déclarant d'un air enchanté « Ah, le bon pot-au-feu ! Je ne sais rien de meilleur que cela !» Elle songeait au dîner fin, aux argenteries reluisantes, aux tapisseries peuplant les murailles de personnages anciens et d'oiseaux étranges, au milieu d'une forêt de féeries. Elle songeait aux plats exquis servis en des vaisselles merveilleuses, aux galanteries chuchotées et écoutées avec un sourire de sphinx, tout en mangeant la chair rose d'une truite ou des ailes de gelinotte. Elle n'avait pas de toilette, pas de bijoux, rien. Et elle n'aimait que cela. Elle se sentait faite pour cela. Elle eut tant désiré plaire, être enviée, être séduisante et recherchée. Elle avait une amie riche, une camarade de couvent qu'elle ne voulait plus aller voir tant elle souffrait en revenant. Et elle pleurait pendant des jours entiers de chagrin, de regret, de désespoir et de détresse. Or, un soir, son mari rentra, l'air glorieux, et tenant à la main une large enveloppe. « Tiens, dit-il, voici quelque chose pour toi. » Elle déchira vivement le papier et en tira une carte imprimée qui portait ces mots. « Le ministre de l'Instruction publique et Madame Georges Ramponneau prient Monsieur et Madame Loisel de leur faire l'honneur de venir passer la soirée à l'hôtel du ministère le lundi 18 janvier. Au lieu d'être ravie, comme l'espérait son mari, elle jeta avec dépit l'invitation sur la table, murmurant « Que veux-tu que je fasse de cela ?»« Mais, ma chérie, je pensais que tu serais contente. »« Tu ne sors jamais, et c'est une occasion, cela, une belle. »« J'ai eu une peine infinie à l'obtenir. Tout le monde en veut. C'est très recherché. et on n'en donne pas beaucoup aux employés. Tu verras là tout le monde officiel. » Elle le regardait d'un œil irrité et elle déclara avec impatience « Que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là ?» Il n'y avait pas songé. Il balbutia « Mais la robe avec laquelle tu vas au théâtre, elle me semble très bien à moi. » Il se tut, stupéfait et perdu, en voyant que sa femme pleurait. Deux grosses larmes descendaient lentement des coins des yeux vers les coins de la bouche. Il bégaya « Qu'as-tu ? Qu'as-tu ?» Mais, par un effort violent, elle avait dompté sa peine et elle répondit d'une voix calme en essuyant ses joues humides « Rien. Seulement, je n'ai pas de toilette et par conséquent, je ne peux aller à cette fête. Donne ta carte à quelques collègues dont la femme sera mieux nippée que moi. » Il était désolé. Il reprit « Voyons, Mathilde, combien cela coûterait-il, une toilette convenable qui pourrait te servir encore, en d'autres occasions, quelque chose de très simple ?» Elle réfléchit quelques secondes, établissant ses comptes et songeant aussi à la somme qu'elle pouvait demander sans s'attirer un refus immédiat et une exclamation effarée du commis économe. Enfin, elle répondit en hésitant. « Je ne sais pas au juste, mais il me semble qu'avec 400 francs, je pourrais arriver. » Il avait un peu pâli, car il réservait juste cette somme pour acheter un fusil et s'offrir des parties de chasse, l'été suivant, dans la plaine de Nanterre, avec quelques amis qui allaient tirer des alouettes, par là, le dimanche. Il dit cependant, « Soit, je te donne 400 francs, mais tâche d'avoir une belle robe. » Le jour de la fête approchait, et Madame Loisel semblait triste, inquiète, anxieuse. Sa toilette était prête, cependant. Son mari lui dit un soir, « Qu'as-tu ? Voyons, tu es toute drôle depuis 3 jours. » Et elle répondit, « Cela m'ennuie de n'avoir pas un bijou, pas une pierre, rien à mettre sur moi. J'aurais l'air misère, comme tout. J'aimerais presque mieux ne pas aller à cette soirée. » Il reprit, « Tu mettras des fleurs naturelles, c'est très chic en cette saison-ci. Pour 10 francs, tu auras 2 ou 3 roses magnifiques. » Elle n'était point convaincue. « Non, il n'y a rien de plus humiliant que d'avoir l'air pauvre au milieu de femmes riches. » Mais son mari s'écria, « Que tu es bête ! Va trouver ton amie Madame Forestier et demande-lui de te prêter des bijoux. Tu es bien assez liée avec elle pour faire cela. » Elle poussa un cri de joie. « C'est vrai ! Je n'y avais point pensé. » Le lendemain, elle se rendit chez son amie et lui conta sa détresse. Madame Forestier alla vers son armoire à glace, prit un large coffret, l'apporta, l'ouvrit et dit à Madame Loisel « Choisis, ma chère. » Elle vit d'abord des bracelets, puis un collier de perles, puis une croix vénitienne, or et pierreries, d'un admirable travail. Elle essayait les parures devant la glace, hésitait, ne pouvait se décider à les quitter, à les rendre. Elle demandait toujours « Tu n'as plus rien d'autre ?»« Mais si, cherche, je ne sais pas ce qui peut te plaire. » Tout à coup, elle découvrit dans une boîte de satin noir une superbe rivière de diamants. Et son cœur se mit à battre d'un désir immodéré. Ses mains tremblaient en la prenant, elle l'attacha autour de sa gorge, sur sa robe montante, et demeura en extase devant elle-même. Puis, elle demanda, hésitante, pleine d'angoisse, « Peux-tu me prêter cela ? Rien que cela ? Mais oui, certainement !» Elle sauta au cou de son amie, l'embrassa avec emportement, puis s'enfuit avec son trésor. Le jour de la fête arriva. Madame Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentés. Tous les attachés du cabinet voulaient valser avec elle. Le ministre la remarqua. Elle dansait avec ivresse, avec emportement, grisée par le plaisir, ne pensant plus à rien, dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès, dans une sorte de nuage de bonheur, fait de tous ses hommages, de toutes ses admirations, de tous ses désirs éveillés, de cette victoire si complète et si douce au cœur des femmes. Elle partit vers 4 heures du matin. Son mari, depuis minuit, dormait dans un petit salon désert avec 3 autres messieurs dont les femmes s'amusaient beaucoup. Il lui jeta sur les épaules les vêtements qu'il avait apportés pour la sortie, modestes vêtements de la vie ordinaire, dont la pauvreté jurait avec l'élégance de la toilette de bal. Elle le sentit et voulut s'enfuir pour ne pas être remarquée par les autres femmes qui s'enveloppaient de riches fourrures. Loisel la retenait. « Attends donc, tu vas attraper froid dehors. Je vais appeler un fiacre. » Mais elle ne l'écoutait point et descendait rapidement l'escalier. Lorsqu'ils furent dans la rue, ils ne trouvèrent pas de voiture et ils se mirent à chercher, criant après les cochers qu'ils voyaient passer de loin. Ils descendaient vers la Seine, désespérés, grelottants. Enfin, ils trouvèrent sur le quai un de ces vieux coupés noctambules qu'on ne voit dans Paris que la nuit venue, comme s'ils eussent été honteux de leur misère pendant le jour. Il les ramena jusqu'à leur porte, rue des Martyrs, et ils remontèrent tristement chez eux. C'était fini pour elle, et il songeait, lui, qu'il lui faudrait être au ministère à 10 heures. Elle ôta les vêtements dont elle s'était enveloppée les épaules devant la glace afin de se voir encore une fois dans sa gloire. Mais soudain, elle poussa un cri. Elle n'avait plus sa rivière autour du cou. Son mari, à moitié dévêtu, déjà, demanda « Qu'est-ce que tu as ?» Elle se tourna vers lui, affolée. « Je n'ai plus la rivière de Madame Forestier !» Il se dressa, éperdu. « Quoi ? Comment ? Ce n'est pas possible !» Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Ils ne la trouvèrent point. Il demandait « Tu es sûre que tu l'avais encore en quittant le bal ?»« Oui, je l'ai touchée dans le vestibule du ministère. »« Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendue tomber. » Elle doit être dans le fiacre. Ah oui, c'est probable. As-tu pris le numéro ? Non. Et toi, tu ne l'as pas regardé ? Non. Il se contemplait, atterré. Enfin, Loisel se rhabilla. Je vais, dit-il, refaire tout le trajet que nous avons fait à pied pour voir si je ne la retrouverai pas. Et il sortit. Elle demeura en toilette de soirée, sans force pour se coucher, abattue sur une chaise, sans feu, sans pensée. Son mari rentra vers 7 heures. Il n'avait rien trouvé. Il se rendit à la préfecture de police, aux journaux, pour faire promettre une récompense aux compagnies de petites voitures, partout, enfin, où un soupçon d'espoir le poussait. Elle attendit tout le jour, dans le même état d'effarement devant cet affreux désastre. Loisel revint le soir, avec la figure creusée, pâlie, il n'avait rien découvert. « Il faut, dit-il, écrire à ton ami que tu as brisé la fermeture de sa rivière et que tu l'as fait réparer. Cela nous donnera le temps de nous retourner. » Elle écrivit sous sa dictée. Au bout d'une semaine, ils avaient perdu toute espérance. Et Loisel, vieilli de 5 ans, déclara « Il faut aviser à remplacer ce bijou. » Ils prirent le lendemain la boîte qu'il avait renfermée et se rendirent chez le joaillier, dont le nom se trouvait dedans. Il consulta ses livres. « Ce n'est pas moi, madame, qui ai vendu cette rivière. J'ai dû seulement fournir l'écrin. » Alors ils allèrent de bijoutier en bijoutier, cherchant une parure pareille à l'autre, consultant leurs souvenirs, malades tous deux de chagrin et d'angoisse. Ils trouvèrent dans une boutique du palais royal un chapelet de diamants qui leur parut entièrement semblable à celui qu'ils cherchaient. Il valait 40 000 francs. On le leur laisserait à 36 000. Ils prièrent donc le joaillier de ne pas le vendre avant 3 jours. Et ils firent condition qu'on le reprendrait pour 34 000 francs si le premier était retrouvé avant la fin de février. Loisel possédait 18 000 francs que lui avait laissé son père. Il emprunterait le reste. Il emprunta, demandant 1 000 francs à l'un, 500 à l'autre, 5 louis par-ci, 3 louis par-là. Il fit des billets, prit des engagements ruineux, eut affaire aux usuriers, à toutes les races de prêteurs. Il compromit toute la fin de son existence, risqua sa signature sans savoir même s'il pourrait y faire honneur, et épouvanté par les angoisses de l'avenir, par la noire misère qui allait s'abattre sur lui, par la perspective de toutes les privations physiques et de toutes les tortures morales, il alla chercher la rivière nouvelle en déposant sur le comptoir du marchand 36 000 francs. Quand Madame Loisel reporta la parure à Madame Forestier, celle-ci lui dit d'un air froissé « Tu aurais dû me la rendre plus tôt, car je pouvais en avoir besoin. » Elle n'ouvrit pas l'écrin, ce que redoutait son amie. Si elle s'était aperçue de la substitution, qu'aurait-elle pensé? Qu'aurait-elle dit? Ne l'aurait-elle pas prise pour une voleuse? Madame Loisel connut la vie horrible des nécessiteux. Elle prit son parti, d'ailleurs, tout d'un coup, héroïquement. Il fallait payer cette dette effroyable, elle paierait. On renvoya la bonne, on changea de logement, on loua sous les toits d'une mansarde. Elle connut les gros travaux du ménage, les odieuses besognes de la cuisine. Elle lava la vaisselle, usant ses ongles roses sur les poteries grasses et le fond des casseroles. Elle savonna le linge sale, les chemises et les torchons qu'elle faisait sécher sur une corde. Elle descendit à la rue, chaque matin les ordures, et monta l'eau, s'arrêtant à chaque étage pour souffler. Et, vêtue comme une femme du peuple, elle alla chez le fruitier, chez l'épicier, chez le boucher, le panier au bras, marchandant, injurié, défendant sou à sou son misérable argent. Il fallait chaque mois payer des billets, en renouveler d'autres, obtenir du temps. Le mari travaillait le soir à mettre au net les comptes d'un commerçant et la nuit, souvent, il faisait de la copie à 5 sous la page. Et cette vie dura 10 ans. Au bout de 10 ans, ils avaient tout restitué, tout, avec le taux de l'usure et l'accumulation des intérêts superposés. Madame Loisel semblait vieille maintenant. Elle était devenue la femme forte et dure et rude des ménages pauvres. Mal peignée, avec les jupes de travers et les mains rouges, elle parlait haut, lavait à grande eau les planchers. Mais parfois, lorsque son mari était au bureau, elle s'asseyait auprès de la fenêtre et elle songeait à cette soirée d'autrefois, à ce bal où elle avait été si belle et si fêtée. Que serait-il arrivé si elle n'avait point perdu cette parure? Qui sait? Qui sait? Comme la vie est singulière, changeante, comme il faut peu de choses pour vous perdre ou vous sauver. Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux Champs-Élysées pour se délasser des besognes de la semaine, elle aperçut tout à coup une femme qui promenait un enfant. C'était Madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. Madame Loisel se sentit émue. Allait-elle lui parler? Oui, certes. Et maintenant qu'elle avait payé, elle lui dirait tout. Pourquoi pas? Elle s'approcha. Bonjour, Jeanne. L'autre ne la reconnaissait point. S'étonnant d'être appelée ainsi familièrement par cette bourgeoise, elle balbutia. « Mais, madame, je ne sais, vous, Vous devez vous tromper. Non, je suis Mathilde Loisel. Son ami poussa un cri. Oh, ma pauvre Mathilde, comme tu es changée. Oui, j'ai eu des jours bien durs depuis que je ne t'ai vue, et bien des misères. Et cela à cause de toi.
De moi ? Comment ça ?
Eh bien, tu te rappelles de cette rivière de diamants que tu m'as prêtée pour aller à la fête du ministère ?
Ah oui !
Eh bien, je l'ai perdue.
Comment ?
Mais puisque tu me l'as rapportée, je t'en ai rapporté une autre, toute pareille. Et voilà 10 ans que nous la payons. Tu comprends que ça n'était pas aisé pour nous, nous qui n'avions rien. Enfin, c'est fini et je suis rudement contente. Madame Forestier s'était arrêtée.
Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne ?
Oui. Tu ne t'en étais pas aperçue, hein ? Elles étaient bien pareilles.
Et elle souriait d'une joie orgueilleuse et naïve.
Madame Forestier, fort émue, lui prit les deux mains.
Oh, ma pauvre Mathilde!
Mais la mienne était fausse. Elle valait au plus 500 francs.
Et voilà la fin de cette petite nouvelle, La Parure, avec beaucoup d'humour et une description des personnages très réaliste. Je trouve que on se met bien dans la scène. J'espère vous avoir fait partager un bon moment de lecture. Et je vous propose une petite pause musicale. Ça va être un moment où vous pouvez appeler. Bien évidemment, au 05 45 95 09 87. Je répète, 05 45 95 09 87. C'est un moment qui vous est dédié à vous, auditeurs, auditrices. Vous pouvez m'appeler, me parler de ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous avez aimé ces nouvelles ? Est-ce que l'émission vous plaît aussi toujours ? Vous pouvez aussi passer en direct si cela vous convient. Je vous laisse en compagnie de quelques musiques.
Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi, Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte Bardot, bravo. On voit toutes les secondes, chaque homme a le cœur qui bat. Oh bébé, 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 je connais beaucoup de femmes qui voudraient bien te ressembler, mais aucune n'a comme toi ce petit je ne sais quoi qui fait que c'est toi, bébé, qui sera toujours aimé. Il aurait fallu t'inventer si tu n'avais pas existé.
Brigitte Bardot, Bardot.
Une fille au monde n'est aussi sympa que toi. Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte Bejo, Bejo. Là dentro do cinéma, todo mundo s'affobo.
Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte Bejo, Bejo.
Dentro do cinema todo mundo se apovou. Ai bebê, 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 por que é que todo mundo olha tanto pra você? Será pelo pé?
Não é.
Será o nariz?
Não é.
Será o tornozelo?
Não é.
Será o cotovelo?
Não é.
Você que boa e que mulher, me diga então por que é? Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi,
Brigitte Bardot, Bardot. Ay, Brigitte Bardot, bravo.
Pour toi toutes les secondes, chaque homme a le cœur qui bat. Oi bébé,
bébé, bébé. Je connais beaucoup de femmes qui voudraient bien te ressembler, mais aucune n'a comme toi ce petit je ne sais quoi.
RDC, il est 15h.
Tu seras toujours aimé. Il aurait fallu t'inventer si tu n'avais pas existé.
Brigitte Bardot, Bardot. Brigitte Bardot, Bardot.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Ce poème, oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, courant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels. Des médailles d'impérateurs font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque. des esclaves à chaque doigt. Jusque en haut des cuisses, elle est beauté, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guervin dans les cheveux. Clochette d'argent de ses paniers, agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot.
Voilà, cette émission à vos oreilles avec Alizée touche à sa fin. J'espère que cette émission vous a plu, que les livres que j'ai pu vous faire partager vous ont plu aussi. N'hésitez pas bien sûr sur des prochaines émissions à appeler, à me donner vos avis et puis aussi vos envies de livres, parce que je peux tout à fait lire un livre de votre choix, de vos envies. Nous allons nous retrouver donc dans un mois, le samedi 18 novembre, de 14h à 15h15. Je vous conterai plutôt les deux autres nouvelles de Guy de Maupassant. Et je pense que je pourrais largement les terminer, ces deux autres, sur l'émission du samedi 18. Et puis, pour le mois de décembre, je verrai soit une nouvelle, soit plutôt un conte de Noël, puisqu'on sera bien évidemment sur un mois important pour ces fêtes-là. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne soirée, après-midi, un très bon dimanche. Vous pourrez retrouver lundi dès 9h Jean-Marc pour les dédicaces sur RDC 93.4 à Angoulême, 92.5 sur la région de Sainte. Je remercie mes parents qui sont à l'écoute et qui connaissent très bien cette nouvelle, la parure. Donc, je suppose qu'ils ont beaucoup aimé. Et je souhaite un bon voyage à la famille Sanson, qui doit être sur la route en direction de la Bretagne. Je leur souhaite une bonne route et de bonnes vacances. Je vous dis à très bientôt, au samedi 18 novembre. Bon week-end à tous. Au revoir.
Grands oiseaux qui s'amusent. a glissé l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand Lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormorant et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent avant que ma jeunesse. Et que mes printemps soient partis, j'aimerais tant voir Syracuse pour m'en sauver.